nous pouvons prendre place. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, je suis le diacre Brunel Batola de l'église ASEM, Assemblée chrétienne d'évangélisation mondiale, l'église qui partage la salle avec vous l'après-midi. C'est un honneur pour moi d'être là encore ce matin, un privilège d'être un instrument de Dieu. Merci pour l'église de m'avoir encore fait confiance ce matin. Seigneur, nous bénissons ton saint nom parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. La Bible dit, Père, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Nous croyons, Père, que tu nous as précédés dans ces lieux et nous voulons saluer ta présence. Maintenant que nous allons parler de toi, Seigneur, que ton esprit nous guide, nous oriente, nous révèle, nous enseigne, Père. Que cette parole, ô Yahweh, soit gravée dans nos cœurs, Seigneur, afin, Père de gloire, que nous puissions grandir avec elle. Sois au-dessus de toutes choses ici, honneur et louange à toi, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Nous allons lire un peu, beaucoup, donc j'aimerais que tout le monde ait sa Bible, s'il vous plaît. La Bible dit, prends garde à toi lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel. Prendre garde à soi, c'est aussi avoir l'arme que Dieu nous a donnée parmi tant d'autres, parmi la prière, le jeûne. Il y a aussi la parole de Dieu qui est une arme spirituelle. Je voudrais commencer ce message par un constat. Dans le monde chrétien, dans nos églises, nous constatons, enfin j'ai constaté, je pense que vous l'avez aussi constaté, que nous les chrétiens aujourd'hui, nous exprimons plusieurs types de foi. Alors que la Bible nous parle d'une seule foi, mais nous les chrétiens, nous exprimons plusieurs types de foi. Et parmi ces types de foi, j'en ai conclu à trois. En réalité, nous ne devons avoir qu'une seule foi, celle dont Hébreux 11 parle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mais nous constatons que les chrétiens sont munis de plusieurs fois. Il y en a qui ont la foi de Marthe, il y en a qui ont la foi de Thomas, il y en a qui ont la foi de Bartimée. Mais nous devons, parmi ces trois types de foi, avoir une seule foi qui plaît à Dieu. Celle que Dieu aura besoin lorsqu'il reviendra. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est de cette foi que je veux vous parler. Mais je voudrais quand même vous dire que la foi de Marthe, il s'agit donc de Marthe, la sœur de Lazare et de Marie, est une foi futuriste. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens expriment une foi futuriste. Ils disent toujours, oui, Dieu fera. Leur foi est orientée vers le futur. Quand Jésus-Christ viendra, le jour du son de la trompette, nous sommes sur la terre, mais notre foi est orientée dans le futur. Or, Dieu n'est pas un Dieu de futur, c'est un Dieu de présent. Il a dit à Moïse, s'ils te demandent comment je m'appelle, dis-leur que je m'appelle, je suis. Alléluia. Et je peux vous dire que nous devons vivre dans le présent, pas dans le passé, parce que le passé n'est que le présent qui est consommé. Et le futur n'est que le présent qui n'est pas encore consommé. Mais nous orientons notre foi vers le futur comme Marthe. Jésus-Christ arrive parce que Lazare, l'ami, son ami, celui qui aimait, était mort. Jésus-Christ arrive et dit à Marthe, « Où l'avez-vous mis ?» Marthe connaissait Jésus. Mais comme sa foi était orientée vers le futur, Marthe dit, « Je sais que tu es le Fils de Dieu, celui-là qui devait venir. » Jésus lui dit, « Non, 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 Marthe, ce n'est pas dans le futur, c'est aujourd'hui. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Marthe oriente sa foi vers le futur. Il attend le Messie qui viendra pour faire le miracle. Pour Marthe, l'histoire de la résurrection d'une personne qui est morte, ça fait 4 jours, qui sent, qui a pourri, et l'histoire du Messie qui viendra au dernier jour. Jésus lui dit, non Marthe, si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Où l'avez-vous mis? Amen. Et beaucoup de chrétiens dans nos églises ont leur foi orientée vers le futur. Non, Dieu fera. J'attendrai lorsque Dieu fera. Vous savez, quand certains chrétiens arrêtent de persévérer, ils disent, j'abandonne tout entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas abandonné tout entre les mains de Dieu. Dieu ne fait que ce qui est divin. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a l'obligation de faire que ce qui est divin. Mais ce qui est de notre ressort, c'est à nous de le faire. Amen. Donc, nous ne pouvons pas tout abandonner entre les mains de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Dieu peut tout, mais il ne fera pas tout. Nous avons deuxième type de foi, c'est la foi de Thomas. Thomas, comme Marie, connaissait Jésus-Christ de Nazareth. Thomas était un disciple, un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Et après la résurrection, les femmes ont constaté. Et ils ont dit que le Seigneur est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Les apôtres réunis ont cru. Mais Thomas, lorsqu'il est venu, Thomas ne croyait pas. Pourquoi? Parce que la foi de Thomas consistait à voir pourquoi. Alléluia. Or, la foi ne consiste pas à voir pourquoi, mais la foi consiste à croire pour voir. Et Thomas doute. Alors, le Seigneur a dit, Thomas, avance ton doigt, ta main et touche. Quand Thomas avait touché, il avait senti les marques, il dit, Rabouni, maître. Et le Seigneur lui dit, Thomas, parce que tu as vu que tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Heureux toi et moi qui n'avons pas vu Jésus, mais qui avons cru. C'est le deuxième type de foi que les chrétiens ont aujourd'hui. Ils veulent voir pour croire. Alléluia. Dans cette salle, l'air est contaminé, en fait. L'air est composé, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de dioxyde de carbone. Nous savons que l'air existe et que l'oxygène nous permet de vivre. Mais nous ne voyons pas l'oxygène. Mais nous ne voyons pas l'air. Alléluia. C'est de cette foi que nous devons avoir. Amen. C'est de cette foi que le Père a besoin. Et le troisième type de foi, c'est la foi de Bartimée. C'est de cette foi que le Seigneur a besoin. Et c'est de cette foi que je vais vous parler. Nous allons donc prendre le livre dans Marc 10, à partir du verset 46. Je vais vous parler de la foi de Bartimée, cette foi que nous devons avoir, cette foi qui plaît à Dieu, cette foi qui nous permettra, lorsque le Fils de l'homme viendra, qu'il puisse trouver la foi en nous et que nous soyons enlevés au son de la trompette au dernier jour. Marc 10, verset 46. Nous devons toujours avoir nos Bibles. La Bible dit que les chrétiens des Bérées analysaient les Écritures à chaque fois qu'on leur parlait de la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il entendit. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48. Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49. Jésus s'arrêta. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation pour la parole de Dieu? La Bible dit que Dieu sur terre s'arrêta. Le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, la parole qui s'est faite chair, lorsque l'aveugle mendiant dit, aie pitié de moi, fils de David. La Bible dit que Dieu s'arrêta. Qu'est-ce qui a fait arrêter Dieu sur cette terre? Peux-tu arrêter Dieu? La Bible dit que Jésus s'arrêta. Alors je voudrais vous parler du contenu qui est dans la phrase « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». C'est ce contenu qui est arrivé dans les oreilles de Jésus-Christ, qui a fait arrêter Jésus-Christ. Je vous rappelle que lorsque Jésus passait, c'était le cortège de la vie qui passait. Mais le mendiant fit arrêter le cortège de la vie. Alors, beaucoup me diront, oui, Jésus-Christ s'est arrêté parce que Bartimée avait crié fort. Non, Bartimée n'avait crié. Le fait que Bartimée crie, c'était pour porter plus fort sa voix à l'entendement de Jésus-Christ, parce qu'il y avait une foule, donc il y avait du bruit. Le micro que j'utilise, ce n'est que pour augmenter le volume de ma voix. Alléluia. Mais le micro n'a pas un contenu. Mais c'est la phrase de Bartimée qui détient le contenu. Et sur ce contenu, je vais mettre entre parenthèses. La Bible dit dans Genèse 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Donc la Bible parle depuis Genèse, il parle de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. La Bible dans Genèse parle déjà de Jésus-Christ qui viendra dans la tribu de Judas. Amen. Ésaïe, le prophète messianique, dit dans Ésaïe 7, verset 14, donc c'était une prédiction, il dit, Emmanuel naîtra, donc Dieu parmi les hommes, naîtra dans la maison de David. Alléluia. Nous sommes en train de voir que depuis Genèse, la Bible est en train de parler de Jésus-Christ, étant issu de la tribu de Judas, étant fils de David. Alléluia. Ésaïe 11, verset 1 dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, Ésaïe le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. » Verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sortira c'est-à-dire le rejetant d'Ésaïe, du tronc d'Ésaïe. Ésaïe le père de David. Christ le Messie, donc sera le rejetant de David par Joseph, bien-aimé. Jérémie dit, le prophète, dans Jérémie 23, verset 5, « Voici, les jours viendront, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Alléluia. Nous sommes en train d'analyser le contenu. Pourquoi Dieu s'est arrêté lorsqu'on lui a dit « Fils de David, aie pitié ». Et nous sommes en train de parler du contenu de la phrase « Fils de David ». C'est-à-dire que lorsque Bartimée dit « Fils de David, aie pitié », il a décrit ce qui était Jésus-Christ en un seul mot. Et Jésus-Christ s'arrêta, il dit, mais qui est-ce qui me connaît? Qui est-ce qui connaît tout ce que je suis en train de vous dire? De Genèse, Ésaïe, Jérémie, etc. Tout était contenu dans la phrase « fils de David ». Si bien que Jésus-Christ ne pouvait plus avancer, il s'arrêta. Parce que cette phrase disait beaucoup pour Jésus-Christ. Alléluia. Acte 13, verset 22 dit, « Puis l'ayant rejeté, qui Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. » Nous avons dit que Jésus-Christ sortait par le rameau de David, fils d'Isaïe. « Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Amen. Donc le plan de la rédemption. Dieu parle de David, mais en fait c'est celui qui est issu de la tribu de Judas et de la maison de David qui accomplira tout ce dessein. Donc le plan de la rédemption. Verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, alléluia, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Et tout ceci est contenu dans la phrase « Fils de David, aie pitié de moi ». Je dis que David est l'homme selon mon cœur. Évidemment, beaucoup de gens disent que David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que, à cause de sa repentance, avec son aventure avec Bathsheba et la mort d'Uri, non, c'est pas vrai. Parce que quand Dieu dit cela, David n'a pas encore péché. Amen. Mais Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, parce que par David naîtra le Shiloh, et par le Shiloh s'accomplira le plan de la rédemption. Amen. 2 Samuel 7, verset 1er. La Bible dit, « Lorsque le roi habita dans sa maison, voilà comment est-ce que Dieu a choisi David selon l'homme selon son cœur. David est roi, intronisé. Après que Dieu lui ait donné tous les ennemis environnants d'Israël. Donc, Dieu lui a donné la paix. Quand Dieu veut te bénir exactement, il va d'abord s'assurer de tes alentours, de tes arrières, avant de te bénir. La Bible dit que la bénédiction excellente vient d'en haut, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu donne la victoire à David de tous les ennemis qui l'environnaient. Et il intronise, il établit roi. Et David un jour dit, non mais c'est pas possible. Moi je suis roi, j'habite dans une maison lambrisée avec des bois de cèdre de Liban. Mais l'arche de Dieu, là où la présence de Dieu se manifeste, habite dans une tente. Ce n'est pas possible. David se préoccupe, a une ambition. Et n'oublions pas que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu savait que David allait se préoccuper de sa maison. Nous sommes dans 2 Samuel 7, verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, verset 2, il dit, qui, David, à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre. Le cèdre, c'est un bois précieux. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit, donc l'homme autorisé de la bouche de Dieu, répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Je reviens toujours à la parole, fils de David, aie pitié de moi. Dans le contenu de cette phrase est tout ce que je suis en train de vous dire. Qui rappelle à Jésus et qui fait arrêter Jésus. 20 ans après que l'arche de l'Alliance fut prise par l'ennemi pendant le règne de Saül, David va récupérer l'arche. En partant de Baal-Juda, en passant par Abinadab jusqu'à Obed-Edom, ramène l'arche dans la maison. Et ce qui rend la fierté d'Israël. Or, la fierté d'Israël, bien-aimé, c'est Jérusalem, la capitale. C'est pour cela qu'avant que le Fils de l'homme vienne, il faut que la capitale de Jérusalem, il faut que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. C'est un signe parmi tant d'autres. Alléluia. Et le président Trump a déjà déclaré que a déjà enlevé l'ambassade des États-Unis, qui est la file de tête, qui est la tête de file, pardon, pour la ramener à Jérusalem. Il y a déjà 4 pays qui ont suivi et le reste du monde suivra. Amen. Donc la fierté d'Israël unie à l'époque, c'était Israël, Jérusalem, la capitale. Et la fierté de Jérusalem, c'était le temple de Salomon. Et la fierté du temple, c'était le lieu très saint. Et la fierté du lieu très saint, c'était l'arche de l'Alliance. Et la fierté de l'arche de l'Alliance, c'était le propitiatoire. Ce couvercle qui couvrait l'arche, la caisse d'or massif, sur lequel étaient surmontés 2 chérubins, devant lequel le souverain sacrificateur criait Adonai. Et c'est là où le souverain sacrificateur aspergeait le sang des animaux pour la rémission des péchés. Et lorsque la gloire de Dieu descendait à Jérusalem, dans le temple, sur l'arche, il s'arrêtait sur le propitiatoire. Et il voyait le sang. Et la rémission des péchés était actée. Dieu ne voyait plus ce qui était dans l'arche, dans la caisse. Parce que dans la caisse, étaient mises les 3 péchés capitaux d'Israël. dans la cage, il y avait les deux tables de loi que le peuple avait refusées. Il y avait la vase d'or qui simplifiait la manne, c'est-à-dire la provision de Dieu. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ils ont refusé le leadership. Les trois rébellions, le péché capital d'Israël, qui était dans la caisse. Et sur la caisse était le propitiatoire. Le souverain sacrificateur aspergeait le sang sur le propitiatoire. Et lorsque la gloire de Dieu arrivait sur le propitiatoire, Dieu ne voyait plus les trois péchés capitaux d'Israël et il accordait la remission des péchés. Alléluia. Tout ceci est contenu dans la compréhension quand Bartimée, fils de Timée, dit « fils de David ». C'est comme un film qui passe dans la mémoire de Jésus-Christ. Et la Bible dit « il s'arrêta ». Il ne pouvait pas continuer. Dieu s'arrêta. Voilà le contenu dont je vous parlais de la phrase de Bartimée, fils de David. Apocalypse même 22, verset 16 dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Aujourd'hui, c'est moi qui vous les atteste. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Alléluia. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Bien-aimé, le contenu de ta foi fera un, à ce que Dieu s'arrête. Deux, à ce que Dieu t'appelle. C'est nous qui appelons Dieu. Alléluia. Mais lorsque le contenu de ta foi est conséquent, rappelle à Dieu ce qu'il est, Dieu va s'arrêter et il va t'appeler. Et il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Quel privilège. Jésus t'appelle. Parmi tant d'autres. Aveugle, mendiant. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous savez, lorsque vous rencontrez réellement Jésus-Christ de Nazareth, lorsque vous rencontrez réellement Dieu, Dieu utilisera même tes ennemis pour ton élévation. Amen. La Bible dit dans Proverbes 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ceux qui faisaient taire Bartimée, la Bible dit, Dieu dit, appelez-le. Jésus les envoya, ceux qui voulaient faire taire Bartimée à cause du contenu de sa foi. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau, donc sa protection, et se levant d'un bond, vint vers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Verset 51, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Trois choses. Quand le contenu de ta foi est conséquent, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes le cortège de la vie par ta prière, par ta foi, par ta parole. Deux, Dieu t'appelle. Trois, Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse? Alléluia. C'est Dieu qui te pose la question, que veux-tu que je fasse? La même question qu'il avait posée à Salomon. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Mais Dieu lui donna un chèque en blanc, c'est-à-dire remplis les chiffres et les zéros que tu voudras. Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Ipso facto, Bartimée, fils de Timée, s'est fait disciple de Jésus. Il dit, Rabouni, maître. Il appelle Jésus maître. Mais d'où est venu le contenu de Bartimée? La Bible dit qu'il était mendiant, donc il ne pouvait pas rentrer dans la synagogue pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était aveugle. Il ne voyait pas les miracles que Jésus-Christ faisait. Mais il fortifiait sa foi par ce qu'il entendait. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant des années, assis au bord, Jésus-Christ a fait des miracles à Béthanie. Jésus-Christ a fait ceci, Jésus-Christ a fait ceci. Bartimée était en train d'accumuler ses connaissances pour sa foi. Mendiant ne pouvait pas aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il devait être assis sur la route pour avoir de quoi manger. Aveugle, il ne voyait rien. C'est la foi que Dieu a besoin. C'est pas la foi de Thomas, c'est pas la foi de Marthe. Car la foi consiste à croire comme Bartimée pour voir. Amen. Donc, le thème de notre enseignement, quel est le contenu de ta foi? Je vais aller très vite, il me reste 15 minutes. Je vais m'efforcer pour finir. Quel est le contenu de ta foi? Le contenu, comme dit le micro Robert, c'est un participe passé du verbe contenir, signifie ce qui est à l'intérieur de quelque chose. Alléluia. Nous avons une foi. Jésus-Christ dit, si vous avez une foi, la foi comme une graine de sénévé, vous déclarez à cette montagne. Mais le problème, c'est que la graine, elle est petite, c'est comme une graine de moutarde. C'est parmi les graines les plus petites du monde qui existent. Mais le problème, ce n'est pas la grosseur ou bien la quantité, mais c'est la qualité de ce qui est dans la graine de moutarde. Et la preuve en est que l'arbre de moutarde fait presque 6 mètres de haut. Donc vous imaginez une petite graine qui donne un arbre mesurant 6 mètres de haut. C'est le contenu, alléluia, de ta foi que Jésus-Christ parlait lorsqu'il disait « Si vous avez la foi comme une graine de sénévé ». Ce n'est pas que parce que tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que tu t'es fait baptiser d'eau et d'esprit que ta foi peut déplacer les montagnes. Alléluia, c'est le contenu de ta foi. Nous n'accordons pas assez d'importance au contenu de notre foi. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Or, c'est dans le cœur que Dieu a mis les facultés de la croyance. Amen. Ce que tu feras, ce qui te fera vivre, c'est ce qui jaillira de ton cœur. La foi, c'est le pouvoir d'acquérir des connaissances, c'est d'accumuler les informations et de décider selon elles. Amen. La foi, c'est le pouvoir d'accumuler les connaissances et de décider selon les connaissances que tu as accumulées dans ton cœur. C'est ce que faisait Bartimée. Lui encore, il était assis au bord de la route. Et nous venons tous les jours à l'église. Et nous avons la parole de Dieu avec nous, même dans les smartphones. Est-ce que le contenu de notre foi est conséquent? La foi, ce n'est pas être membre d'une église, bien-aimé. Ce n'est pas aussi adhérer à des doctrines ou des dogmes. Mais la foi, c'est l'accumulation de la connaissance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que Bartimée avait l'avait affranchi de l'aveuglement et de la mendicité. Alléluia. Galates 3, verset 11 dit « Le juste vivra par sa foi. » La foi doit nous vivifier. La foi que Jésus-Christ demande, c'est celle qui nous vivifie. C'est-à-dire qui fait partie de notre vie. Si je vous demandais, est-ce que lorsque vous êtes venu ici et qu'on vous a donné cette place là où vous êtes assis, est-ce que vous avez pensé, vous êtes posé la question que la chaise a la capacité de supporter mon poids? Non, on vous a donné la place, vous êtes assis. Parce que vous avez la foi que la chaise a été fabriquée pour me recevoir. Vous ne posez pas des questions. Alléluia. Quand vous prenez un avion, vous ne posez pas si le pilote a, ses 3600 heures de vol, s'il a son permis. Et même le taximan, vous ne vous posez même pas la question si ce taximan est qui. Mais vous rentrez dans le taxi, vous vous dites que ce taxi m'amènera à l'église. Alléluia. C'est de cette foi que Dieu a besoin, qui fait partie de notre vie. Donc Galates dit, le juste vivra par sa foi. Or, la connaissance, c'est la base de la foi. Donc, si ça ne marche pas dans ta vie, ne regarde pas le diable. La Bible dit qu'il rugit comme un lion, mais il n'est pas un lion. Et la Bible dit qu'il a été vaincu à la croix, à Golgotha, il y a plus de 3000 ans. Donc, si ça ne marche pas dans ta vie, ne regarde pas l'oncle, ne regarde pas le diable, Ne regarde, regarde pas le franc-maçon, mais analyse ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Parce qu'on a dit que dans ta famille, les femmes ne se marient jamais. C'est ce que tu crois. Parce qu'on t'a dit que le diable rugit comme un lion. C'est ce que tu crois. Et cela a forgé ta foi. Et le contenu de ta foi a plus de la connaissance de l'ennemi que de la puissance et de la réalité de Dieu. Luc 18, verset 8 dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, le contenu par excellence, afin que nous soyons enlevés ?» La Bible dit qu'au son de la trompette, alléluia, lorsque le Christ viendra et il se posera sur le mont des Oliviers, et la Bible dit que tout l'œil le verra, toute oreille entendra, alléluia. Mais la Bible le parle des oreilles qui ont la foi en Christ, car tout le monde ne sera pas enlevé. C'est pour cela qu'il est avantageux pour nous, je ne vous dis pas de mourir, mais il est avantageux de nous de mourir en Christ, alléluia. Parce qu'il y aura un temps où même les morts en Christ entendront le son de la tempête et ils seront ressuscités. Quel est le contenu de ta foi? La Bible n'enseigne pas, bien aimé, la foi. La Bible n'enseigne pas directement la foi. Mais la Bible nous donne des messages qui bâtissent notre foi. Et aujourd'hui, dans nos églises, on nous enseigne la foi. Pourquoi? Parce que les messages qui doivent bâtir nos foies ne sont pas enseignés. Alléluia. Montrez-moi où la Bible parle de, enseigne la foi. Dieu veut que tu aies la foi. Dieu te dit que la foi doit être comme ceci et comme cela. Mais dans le monde chrétien, dans nos églises, on nous enseigne sur la foi. Pourquoi? Parce que les messages qui doivent bâtir nos foies ne sont pas enseignés. Si à 50% on nous enseigne les ravages, la puissance du diable, on nous parle des oncles, on nous parle des tantes, on nous parle des francs-maçons, on nous parle des serpents, et même du type de serpent, c'est un anaconda ou un cobra. Comment il attaque? Voilà le contenu aujourd'hui dans nos églises qui renferme notre foi. Il y a un problème. Évidemment, le meilleur contenu de la foi, c'est de parler de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Le monde chrétien est déboussolé. La Bible dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir. » D'abord, il est écrit, un pouvoir lui a été donné. Et il dit, « Je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. » Mais à cause du contenu, l'autre contenu qu'on a, alléluia, qui influence cette parole. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir, bien-aimé. Comment peux-tu être possédé? Comment peux-tu être le dernier de la classe? Comment peux-tu être le dernier à moins que rien, comme disent les gens du monde? Et pourtant, nous ne sommes pas que de moins que rien. C'est à cause du contenu de notre foi. On nous enseigne la morale, on nous enseigne les motivations à l'église, on nous enseigne l'actualité à l'église, on nous enseigne des combats spirituels, des faits divers, des démons, comment résister au diable, comment lutter contre les démons. On nous enseigne les sorciers, on nous enseigne la malédiction, comment marcher sur la malédiction. Mais la Bible dit qu'il t'a déjà donné le pouvoir. Alors, si Christ n'est pas prêché, évidemment, dans nos églises, comment et sur quoi allons-nous bâtir notre foi? Sur la puissance du diable, des ennemis, des jaloux, des haineux, ou sur l'amour du Christ? Pour changer ce que les gens, pour changer donc les gens, ne demandons pas aux gens de faire, mais nous demandons aux gens de croire. Alléluia. La Bible dit, si tu crois, tu verras. La Bible ne dit pas que si tu fais. Il lui dit, si tu crois, tu verras. Il est écrit que Abraham crut et cela lui avait imputé à justice. Il a cru. Abraham n'avait pas fait. Il nous demande d'abord croire avant de faire. Mais aujourd'hui, on nous demande de faire, de faire, de faire, de faire et de faire. Le contenu de notre foi est orienté dans le faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras, tu seras sauvé, toi et ta famille. Abraham crut. La femme samaritaine crut. Jésus-Christ n'avait pas dit que tu es une prostituée. Il n'a pas commencé à dire que tu es une prostituée. Jésus-Christ a commencé à dire, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Alléluia. Il était en train de changer le contenu de sa croyance. Parce que pour elle, comme le disait dans le temps, les Samaritains ne devaient pas se joindre aux pharisiens ou aux juifs, parce que la Samarie qui venait du mélange du royaume du Nord avec les dix des douze tribus d'Israël que Salomon avec ses concubines ont ramené des dieux étrangers, et cela a fait un peuple des Samaritains, c'est-à-dire une secte qui utilisait évidemment la Pentateuque, mais qui avait encore la croyance des dieux étrangers. Le bon contenu, c'est pas de croire ce que Jésus fera. Ça encore, on voit ta foi dans le futur. Parce que nous, notre foi est basée sur ce que Jésus-Christ fera. Non, la Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais qu'est-ce qui nous donne l'assurance? Ce qui nous donne l'assurance, c'est ce que Christ avait déjà fait. Alléluia. La foi est une ferme assurance parce que Christ l'avait déjà fait. Alors nous avons l'assurance d'espérer ce que Christ avait fait. Est-ce que je me fais comprendre? Et une démonstration. Croire en Christ, c'est pas croire à ce qu'il fera. Non, crois d'abord à ce qu'il a fait. S'il a ressuscité Lazare, c'était dans le passé. Il pourra aussi te ressusciter. Alléluia. S'il a multiplié du pain, l'avoir, il pourra aussi multiplier tes avoirs. Croyons à ce que Christ avait déjà fait. Ne croyons pas à ce qu'il fera. C'est la véritable foi. C'est pour cela, lorsque le diable t'attaque, lorsque le diable attaque ton mariage, il attaque tes enfants, ton foyer, il attaque ton travail, il peut même attaquer ta voiture. Mais ces choses, ce n'est pas la cible. La cible, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Pourquoi? Parce que s'il déstabilise la parole qui est en toi, tu ne seras plus agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Quand il attaque ton mariage, c'est pour te déstabiliser et que tu perds le contenu de ta foi. Tu seras concentré aux attaques du diable au lieu d'être concentré au contenu que tu as reçu de la parole de Dieu. Et même dans le jardin d'Éden, il n'est pas venu en vaudou. Il n'était pas venu avec des cornes comme on nous le dit. Mais il était venu en utilisant la même parole. Dieu a-t-il réellement dit? Mais oui, Dieu l'avait dit. Alléluia. Donc la première fois que le diable rentre en action, il ne vient pas avec des amulettes, il ne vient pas avec de la sorcellerie, il vient avec la parole de Dieu pour changer le contenu d'Adam et de Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Mais oui, Dieu l'avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'avait fait que déstabiliser le contenu de la foi de Ève. Le moyen le plus rapide, bien aimé, d'être efficace et puissant, d'être agréable à Dieu, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas l'adoration, ni la prophétie, et même pas la prière, mais c'est la foi. Parce que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera les gens en train de prier, il trouvera les églises, il trouvera les gens en train de circuler, de manger. Mais il dit, trouverai-je la foi? Il ne dit pas, si je trouverai les gens en train de prier. Il demande si je trouverai la foi. Même sur le chrétien qui est au travail, qui ne prie pas corps, qui n'adore pas, qui travaille, mais Dieu verra la foi en lui. C'est ça qui compte. Alléluia. Parce que la foi n'a pas besoin de prière. La foi n'a pas besoin de jeûne. La foi n'a pas besoin d'adoration. Mais pour jeûner, il faut avoir la foi. Pour prier, il faut avoir la foi. Alléluia. Toutes ces choses ont besoin de la foi. Ce n'est pas la foi qui a besoin de ces choses. À 75 ans, il me reste 5 minutes. C'est ça, hein, pasteur. À 75 ans, Abraham reçut une promesse. À l'époque, Sarah avait 65 ans. Et c'était chose impossible. C'était d'abord difficile. 25 ans après, à 99 ans, ou à 100 ans, c'était devenu impossible. Alléluia. Mais la Bible nous dit, dans Romains 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance. » Alléluia. Sarah, la ménopause, dépassée. Abraham n'a pas regardé son corps usé. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Il le crut. Alléluia. Il le crut. En sorte qu'il devint. Troisième personne du subjonctif devait devenir. Père d'un grand nombre de nations. Ça veut dire que le contenu de ta foi te fera devenir. Est-ce que vous me comprenez? Le contenu que tu as dans ta foi te fera devenir. Ça veut dire qu'Abraham crut et devint. Alléluia. Ta situation, donc, mon frère, ma soeur, doit passer de difficile à l'impossible. Et lorsque ta situation passe de difficile à l'impossible, tu deviens un candidat au miracle de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les difficultés, tu crois. Dans l'impossibilité, tu continues à croire. Alors tu deviens candidat au miracle de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, on dit, Lazare que tu aimes est mort. Et la Bible dit que Jésus-Christ resta encore. Des difficiles, quand il était malade, il a ramené la situation à l'impossible. Lazare est mort. Alléluia. Dieu a ramené le peuple égyptien et israélite devant la mer, de difficile la situation qu'il vivait en Égypte, à l'impossibilité. Alléluia. Quel est le contenu de ta foi? En conclusion, je veux dire ceci. Que devons-nous mettre dans le contenu de notre foi? Eh bien, dans le contenu de notre foi, nous devons mettre tout ce que la Bible a dit parmi tant d'autres. La Bible dit qu'il y eut silence dans les cieux pendant une demi-heure. Dieu dit, qui enverrai-je pour aller sauver l'homme que nous avons créé à notre image et à notre ressemblance? La Bible dit qu'il y eut silence dans les cieux pendant une demi-heure. Alors j'ai fait mes calculs. La Bible dit qu'un jour devant Dieu est comme mille ans. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Dans une journée, il y a 24 heures. Une heure est égale à 60 minutes. Alléluia. Et multipliant 60 fois 24, ça nous donne 1440 minutes dans la journée. Alors quand je fais la règle de 3, 1000 et 1440 sur une demi-heure 30, je multiplie, ça me donne 20. Cela veut dire que lorsque la Bible dit qu'il y eut silence dans les cieux pendant une demi-heure, il y eut 20 ans de silence. Alléluia. 20 ans de silence. Les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, les myriades d'anges, d'archanges et de chérubins dans les cieux étaient silencieux pendant 20 ans. Qui enverrai-je? Nous devons mettre dans le contenu de notre foi ce que le vieillard avait dit à Jean dans le livre de Patmos pendant l'Apocalypse. quand Jean pleurait, il dit, ne pleure pas. Le rejeton de David. Jésus-Christ est digne d'ouvrir les livres des sceaux. Alléluia. Nous devons mettre dans le contenu de notre foi que Jésus-Christ avait accepté de descendre après 20 ans de silence. Nous devons mettre dans le contenu de notre foi l'incarnation de Jésus. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Cela doit être le contenu de notre foi. Nous devons mettre dans le contenu de notre foi qu'il est venu, qu'il est allé, c'est les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est pour cela que toi et moi, aujourd'hui, alléluia, nous allons hériter le royaume des cieux. La Bible dit qu'il est allé, c'est les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu dois mettre cela dans le contenu de ta foi. Tu dois mettre qu'il est allé dans les eaux du Jourdain. Le souverain sacrificateur dit, non mais je ne suis pas digne de délier même celui-là. Il dit, laisse faire la volonté du Père. Il s'est fait baptiser d'eau et le Père lui a baptisé de l'Esprit. Nous devons mettre dans le contenu de notre foi le baptême d'eau et d'Esprit par immersion. Alléluia. Nous devons mettre dans le contenu de notre foi que de saint qu'il était, il devint péché. Il ne devenait pas pécheur, mais il devint péché. Parce qu'il a pris sur lui, dans les eaux du baptême, le poids du péché de l'humanité sur lui. Et il devint péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il est écrit que l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Même son propre fils devait passer à Golgotha. Pour toi et moi. Alléluia. Nous devons mettre dans le contenu de notre foi qu'il a déversé son sang à Golgotha. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu dois mettre dans le contenu de ta foi qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dois mettre dans le contenu de ta foi que de riche qu'il était, il s'est appauvri. Tu dois mettre dans le contenu de ta foi, bien-aimé, que l'acte sur lequel les ordonnances te condamnaient, toi et moi, a été déchiré à la croix. Tu dois mettre dans le contenu de ta foi, bien-aimé, qu'il est mort. Sans la mort de Jésus-Christ, notre foi serait vaine. Alléluia. En mourant, il avait accompli. Tu dois mettre dans le contenu de ta foi qu'il est allé dans les lieux obscurs, prêcher l'évangile, arracher la clé du séjour des morts. Ce n'est plus le diable qui décide de ta mort, mais c'est Dieu qui décide de ta mort. Tu dois mettre dans le contenu de ta foi qu'il est ressuscité. Alléluia. Tu dois mettre dans le contenu de ta foi qu'il est assis à la droite du Père comme avocat, comme intercesseur. Alléluia. Voilà le contenu de ta foi qui fera arrêter Dieu, qui fera dire à Dieu de t'appeler, et qui fera dire à Dieu, que veux-tu que je fasse? Et qui te fera devenir. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation pour notre Dieu? Merci beaucoup. Merci.